Poignée de Gamer, le podcast.
Salut à tous, c'est Dukes et bienvenue dans ce nouvel Actu PPG, l'Actu PPG de la semaine 43, saison 6. Et nous sommes le mardi 24 octobre. Et j'ai avec moi ce soir Monsieur Pitch. Il est ce soir à Brive-la-Gaillarde. Bonjour Rolling.
Ah bonsoir. Alors je sais pas ce que c'est l'accent de Brive, je vais pas le prendre pour pas vexer les gens. Mais oui, bonsoir.
Ouais, c'est clair, ouais, parce que je crois que t'es pas très fort en accent. T'es un peu comme notre.
On va vite.
Ouais, notre Gab qui est là ce soir, salut mon Gab, ça va ?
Bonsoir, ouais, je suis en envoyé spécial aussi à Brive-la-Gaillarde, je cherche des gens, bon.
Rejoins-moi au Kyriad.
Attendez, je vois une lumière au Kyriad.
Il paraît que ça sent l'andouillette dans la chambre. Enfin bon, on va dire.
Ah grave, l'andouillette et la bière.
Ouais, l'andouillette de triple A le soir, c'est peut-être pas le meilleur des... Ouais, bon. Bref,
c'est ça.
Il nous dira comment se passe la nuit.
C'est clair. Avant de se coucher, une bonne petite andouillette, Rolling nous a fait ça avec de la bière. Bon messieurs, ce soir on est tous les trois réunis. On a un auditeur, tiens, le Luc is back, qui est là ce soir, qui nous écoute. On l'embrasse, on te fait des gros bisous, Luc. Si tu prends la parole, n'hésite pas, parce que maintenant, le nouveau concept, chers auditeurs, c'est que sur notre Twitch, le soir, pour les enregistrements, on met une petite annonce. Vous pouvez venir nous rejoindre, se poser des questions, discuter avec nous, partager. J'ai dit quoi ? Twitch ?
Non. Sur Twitch.
Non, c'est Discord. On n'est pas encore assez techno pour faire Twitch, on n'y arrive pas. Et... Non, c'est une blague. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Voilà, donc si vous aimez l'émission, likez, partagez, abonnez-vous, ça nous fait toujours très plaisir. Et aussi, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute ensemble lors de l'actu, n'hésitez pas à les mettre aussi dans le Discord et on va retenir certains sujets, pas tous bien entendu, on ne peut pas tout faire et on discutera ensemble. Riri n'est pas là, et pourtant il a une belle surprise pour nous, j'espère que c'est reporté. Il avait du guest à nous faire venir. On verra ça pour une prochaine émission. Donc, on est tous les trois. On va se lancer pour la grosse actu. Il n'y aura pas de coup de gueule, je crois, cette semaine. Il y aura une petite rumeur. Ok, je n'y crois pas du tout. Je vous dirai tout ça. Et ensuite, on ira par l'actu en vrac et on terminera par le journal des sorties des chroniqueurs. Messieurs, c'est parti. C'est la grosse actu. C'est tout de suite.
Pour une poignée de gamer, le podcast.
La grosse actu, alors on n'en a pris qu'une parce qu'elle est quand même, c'est The Actu, oui. Peut-être de l'année, peut-être de ces 10 dernières années. Oui. C'était une actu qu'on attendait, qu'on pensait qu'il arriverait plus tôt, puisque ça fait bientôt un an et demi que l'affaire est en cours. C'est le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft.
King.
Et King, oui, il ne faut pas oublier King, la filière King, tout ce qui est jeux mobiles. Mais ça y est, c'est acté. On peut dire que Microsoft et Activision Blizzard ne font plus qu'un.
Alors, presque.
Presque. Ah, dis-nous tout, Rolling, parce que je n'ai pas tout suivi.
En fait, la CMA, donc l'autorité britannique, a donné son feu vert. Et la FTC, en fait, a lancé un ultime recours, mais qui paraît extrêmement improbable. Ils l'ont fait, il est là, le recours, il y aura un jugement, mais il y a extrêmement peu de chances que tous les as soient s'alignent pour que ça annule le rachat. Donc disons que c'est fait à 99,9%. Mais oui, on peut dire que c'est acté. Techniquement, il y a encore un sujet avec la FTC allemande, américaine, mais c'est vraiment de l'administratif.
Bon, on va dire qu'à 99%, ouais, ça va se faire.
Oui.
Mais tout ça retarde encore. Ouais. Le fait que la FTC veuille de nouveau porter...
Alors, je ne sais pas si ça décale, mais ce qui a été dit par Microsoft, c'est que les jeux arriveront dans le Game Pass dès début d'année 2024, pas tout de suite.
Mais c'est pas bloquant de toute manière, puisque là, c'est juste un recours et qui aura lieu. Mais comme la fusion est déjà actée, il faudrait qu'ils démontrent tout ce qui a été construit, ce qui est peu probable, comme dit, là, c'est un recours de principe pour dire on n'est pas d'accord.
Bah oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui a fait changer la CMA ? Alors, enfin, moi, j'ai la réponse, mais je vous lance le truc, quoi. Allez, je vous tends le truc.
C'est ce cher Yves Guillemot. Alors Yves Guillemot, c'est qui ? C'est le CEO, le PDG actuel de chez Ubisoft. Alors pourquoi on parle de lui ? On l'avait déjà parlé ici, c'est qu'en fait, un des accords de principe, en dehors qu'on avait dit que tous les jeux Call of seront pendant 10 ans sur console Sony et Switch pour accorder l'accord, il y avait aussi le fait que tous les jeux publiés depuis 15 ans et jusqu'en 2035. Donc tous les jeux que Activision publiera dans cette période-là seront en accès, Ubisoft aura les droits sur tous ces jeux entre il y a 10 ans et jusqu'à 2035 en cloud gaming et pour une durée illimitée.
C'est leur système d'abonnement Ubisoft Plus.
Ouais.
Pendant les 15 prochaines années, ils auront une obligation contractuelle de mettre à disposition les jeux d'Activision Blizzard dans cet abonnement-là. Ce qui bloquait, en fait, c'est ce que craignait, c'est le monopole, c'est ça, hein, sur tout le catalogue. ça, ce qui a convaincu la CMA, c'est que sur les 15 prochaines années, il y a au moins autre. Il y aura plus forcément le Game Pass, mais pas que. Il y aura aussi, on pourra avoir le Ubisoft Plus. On pourra en profiter, voilà, si vous êtes abonné à ce service-là. Ce qui a rassuré, voilà, la CMA, qui a donné son feu vert finalement, en disant bon, ok, au moins pendant 15 ans, il n'y aura pas de monopole direct. Bien que, hein, on peut encore en discuter. Ça fait les affaires d'Ubisoft, tout ça quand même.
Ah ben complètement, parce qu'en fait, tout ce qui va se passer, c'est que là, Ubisoft aura les droits à 100% sur le cloud gaming, sur les jeux de Activision Blizzard King. Et imaginons que Sony veut le mettre dans son PS Plus Premium qui fait du streaming et du cloud gaming, un jeu de Activision. Eh bien, ils ne devront pas demander à Activision, ils devront demander à Ubisoft. C'est Ubisoft qui a les droits à 100%. Donc c'est assez fort.
Alors attends un petit peu quand même, parce que je vais en profiter pour glisser ça, parce qu'il y a PH qui a cette semaine ou la semaine dernière nous a fait passer un petit graphique nous montrant l'évolution du marché du jeu vidéo. Tu vois du graphique que je te parle ?
Oui,
on voit quand. Donc on y voit beaucoup de choses, mais on y voit surtout que là, à notre époque actuelle, le cloud gaming, ça représente mais rien, mais zéro, quoi. Il y a 2 ou 3%. C'est vraiment un grain de sable par rapport
au. Je crois que c'est. Il me semble que j'ai eu des chiffres, c'était 1,8 milliard l'année dernière. 1,8 milliard, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais à l'échelle mondiale du jeu vidéo, c'est un grain de sable.
Et d'ailleurs, moi, je suis étonné parce qu'il y a le Xbox Game Pass Ultimate, le Ubisoft Plus, le PS Plus Premium, j'en passe, c'est des meilleurs. On a des appareils comme le Steam Deck pour faire du cloud gaming. Enfin, il y a tout un écosystème qui est là.
Oui, mais c'est pas ça. C'est pas que moi, si je pouvais faire du cloud gaming, je le ferais bien volontiers. C'est juste que les infrastructures en Europe ne sont pas, même dans d'autres beaucoup de pays, ne sont pas développées pour du cloud gaming, quoi. Je veux dire, c'est. Même nous, toi, rien que pour faire de l'audio ce soir, machin, parfois on galère. non, mais c'est vrai, Gab, il a une collection de merde. Moi, il y a encore quelques mois, j'avais une collection catastrophique. Enfin, tu vois, c'est.
J'ai
la fibre, moi. Gab et moi, on n'a toujours pas la fibre. Hein, alors, comment faire du cloud gaming, c'est impossible pour nous, quoi.
Après, moi, je dis que je suis étonné. J'ai la fibre et je ne fais pas de cloud gaming du tout. Alors que je pourrais complètement, avec mon Game Pass Ultimate, et je pourrais le faire. Mais c'est vrai que. Moi, le premier, je le fais pas. Donc,
parce que les offres aujourd'hui sont pas intégrales. Ça, t'as pas d'offre cloud gaming à part un truc. Les offres qui sont vraiment très chères, qui te proposent de pouvoir accéder à ton catalogue intégral de façon sans limite et sans contrainte. Aujourd'hui, soit tu vas chez GeForce Now, mais tu peux jouer qu'au jeu GeForce. Soit tu vas chez Microsoft, mais tu peux jouer qu'au jeu Microsoft. Voilà.
C'est très fermé.
Et à chaque fois, vous prenez des abonnements, tu vois. Donc c'est pas.
Oui, il faut payer par dessus. Par contre, pour finir là-dessus, c'est quand même Ubisoft. Là-dessus, ils se mettent bien quand même. Ils ont quand même des. Parce que dans 10-15 ans, les infrastructures auront évolué. Et là, ils vont peut-être dans 5-6 ans déjà, on sera déjà dans un autre niveau d'infrastructure. Ils vont se faire plaisir, je pense. C'est très fort pour eux.
C'est comme pour la VR. Je pense que le cloud gaming, ça restera toujours quelque chose de marginal.
Ah, un peu au-dessus quand même, ouais.
Pas dit. Parce que déjà, ça s'appuie sur des technologies qui ne sont pas faciles à intégrer. Contrairement, à une console avec une manette et un jeu, tu vois, c'est assez simple. Là, il faut déjà s'assurer d'avoir la bonne connexion, il faut avoir l'abonnement qui va bien avec, il faut c'est pas juste tu lances ta console et ça marche, c'est pas aussi facile que ça. On peut avoir des et je pense que quand même pour beaucoup de personnes aujourd'hui de se dire j'ai pas le jeu chez moi, c'est un vrai problème. Le jour où t'as en plus t'as un problème de connexion, ben voilà, c'est pareil, tu peux plus y jouer, t'as plus rien.
Tous ceux qui ont un abonnement au Game Pass ou au PS Plus, je pense pas que ce soit trop leur problème. C'est plus des questions d'habitude chez nous. Du moins.
Le PS Plus ou le Game Pass, il me semble que tu as un temps, même quand tu n'as plus de connexion, sur lequel tu peux encore utiliser. sécuriser ton jeu avant de perdre complètement l'accès aux jeux vidéo. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand tu as un Game Pass ou un PS Plus, il te donne une clé qui a une durée de vie qui est déjà des fois de 2 jours à 7 jours. Donc je sais plus,
ah
en
oui.
fonction des offres. Et cette clé fait que pendant 2 jours ou 7 jours sans te connecter, tu peux continuer à jouer à tes jeux. Là, c'est plus le cas. Donc il y a quand même une grosse différence. Hein. Moi, je pense que ça prendra jamais au même niveau que les abonnements Game Pass. Et voilà. Tant qu'on aura du hardware à la maison, sauf si demain on me laisse plus le choix, il faut jouer de façon full cloud. Là, oui, tu feras
Ce
du
bon
cloud.
vieux Claude.
Ouais,
Ouais, je
exactement.
sais pas trop. Ouais. Mais bon, toujours est-il que ça y est, l'accord est fait. On va pouvoir jouer à Call of sur console Xbox.
Oui,
Par
alors,
contre, un truc maladroit.
oui, je voulais juste préciser un truc, après je te donnerai la parole, Rowling. Effectivement, ils ont officialisé, bon, dès que ça sera signé, ils ont dit que très rapidement, en début 2024, il y aurait les premiers jeux Activision Blizzard qui seraient dans le Game Pass. C'est ça? Hein, on est d'accord là-dessus?
Ouais, c'est ça, parce que là, ils peuvent pas, le prochain Modern Warfare 3 qui va sortir, les
Oui.
précommandes courent en ce moment. Donc, ils peuvent pas dire, hey, ça sera dans le Game Pass. Sinon, ils vont cannibaliser
Ben
les
oui,
ventes.
c'est ça, complètement, ouais, complètement. On rappelle pour les auditeurs que Suspensor s'était engagé contractuellement auprès de PlayStation, hein, et de notre Jim Ryan que Call of serait disponible au minimum encore 10 ans sur sa plateforme.
Oui, bah après, ce qui est gagnant-gagnant pour Xbox aussi, hein.
Oh, complètement, parce que
Oui.
tu as un parc énorme de PlayStation, donc autant aussi le vendre. Et après, de toute façon, la force, elle est là du Game Pass. C'est dire à un joueur, toi, si tu viens chez moi, tu payes 10-15 balles par mois, tu as une offre pléthorique de jeux et tu auras tous tes Call of machin. Si tu calcules bien, si tu vas chez le concurrent, tu auras le même jeu, sauf que tu le payeras 80 balles. C'est quasiment mon abonnement annuel, sauf que tu auras beaucoup plus de jeux. Et ça va faire, au bout d'un moment, quand même, les gens, ils vont peut-être, si le mec il joue qu'à des Call of ou qu'il est très joueur de ce type de jeu, bah pour lui, ça vaut plus la peine d'acheter une PlayStation, on est d'accord.
On dit ça depuis 2 ans ou 3 ans, on voit que quand même le Game Pass, là, il arrive à un moment où il n'arrive plus trop à progresser. Est-ce que ce
Et
rachat va
c'est
changer la
étonnant.
donne?
Et c'est
Oui, c'est.
étonnant parce que alors je sais plus où est l'actu là. Le mois de septembre, il y avait une tuerie de jeux sur Game Pass. Il y avait une tuerie de jeux au mois d'octobre. Là, le mois de novembre, c'est pareil. Attendez, je vais chercher. Tu cherches Rowling, ce qui sort pour le Game Pass, là, mois de Rowling?
Tu veux parler de Starfield qui a cartonné? Non, c'est pas ça.
Ben, écoute,
Si, j'ai
on est
vu
beaucoup tombé sur
une.
Starfield, mais j'ai lu une news qu'aux États-Unis, il a fait une semaine devant alors le FC 2024 là. Il
Tu veux les
a
jeux
été premier
de.
charts, quoi, quand même.
Tu veux
Premier
les
charts.
projets
Donc,
d'octobre là que je
ouais,
liste,
non,
c'est ça?
octobre, on l'avait déjà cité la dernière fois, mais là, en novembre, on a des belles
Novembre.
cartouches, je
Alors
crois.
attends, je vais te le lire tout de suite.
On a encore des belles cartouches. Hein.
Novembre.
Et alors, tout ça pour dire, Gab,
Ah si,
que,
on a les Schtroumpfs 2
effectivement,
en
je
novembre.
suis aussi surpris que toi que le Game Pass, effectivement, le Game Pass, il n'est pas en super progression. Même le nombre de ventes de consoles Xbox est un petit peu en berne. Il y a des baisses de ventes par rapport à l'année dernière. Je crois qu'ils sont à moins 18%, un truc comme ça, par rapport au même mois de novembre, d'octobre, par rapport à l'année dernière, ou de septembre, je ne sais plus. Septembre 2023, 22, septembre 2023, il y a presque moins 20% de ventes d'Xbox.
Et moi, ce que je vois qui va se passer en termes de balance, parce que là, ce qui s'est passé il y a 2 mois, rappelez-vous, il y a Sony qui a annoncé une augmentation en moyenne de 20% de leurs abonnements de PS Plus, tous les paliers confondus. Donc je pense qu'il y a là, il y a une vague de gens comme nous qui sont des abonnés. Et ces mêmes gens-là et d'autres arrivants, ils vont voir, tiens, si je prends le Game Pass en 2024, j'aurai tous les Call of, j'aurai Crash Bandicoot, j'aurai plein de jeux qui vont arriver dedans. Je pense qu'il va y avoir une grosse balance qui va se faire début d'année.
Ouais, mais ça se fait toujours pas. Moi, j'ai l'impression qu'ils marchent sur l'eau, PlayStation, comme un petit peu Nintendo de leur côté avec leur clientèle. Ils peuvent leur faire n'importe quoi, ils vont suivre. Et par exemple,
Alors
j'en
ouais, mais
veux.
sauf
En...
que là où je te
Attends, attends,
rejoins
juste,
pas.
juste,
Non,
juste, juste un chiffre.
mais
Juste
vas-y.
un chiffre. Un chiffre. Je te dis, moins 18% de Xbox en septembre par rapport à 2022-2023, moins 18%. Moins 28 pour les Switch, hein. Donc les Switch, ça aussi il faudra qu'on en parle parce que les Switch ils tentent de passer à la Switch suivante. Par contre, pour la PS5, ils sont à plus 145%. Plus 145%. C'est-à-dire que les mecs, plus ils mettent la carotte et plus on en achète quoi. C'est
C'est clair.
incroyable
Ouais,
quoi.
c'est.
C'est
Comme tu dis,
incroyable.
il marche sur l'eau là-dessus, ouais.
Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent
Mais.
aux PlayStation fans, les mecs, ils vont continuer à acheter par palette des PlayStation. Mais après...
Je le trouve... Attends, je voudrais juste revenir sur ce que tu dis. Ils font comme Nintendo. Là-dessus, je ne te rejoins pas. Effectivement, les gens qui suivent Nintendo, et encore, on a bien vu qu'il y a des générations à vide pour Nintendo. Les gens qui suivent Nintendo et qui sont prêts à leur donner leur sous en fermant les yeux, quelque part, je trouve que Nintendo... Oui. Quelque part, je trouve que Nintendo n'a jamais trahi leurs promesses depuis le début, et je trouve qu'ils gardent quand même une certaine limite dans leur politique budgétaire.
Tu m'as mal écouté, Gab. J'ai pas dit qu'ils faisaient la même politique. J'ai dit que chacun de leur côté marche sur l'eau, à leur manière différente, hein, pour d'autres différentes raisons.
Pour des différentes raisons, voilà, on est d'accord. Donc là, je suis d'accord avec toi. Et pour revenir sur Sony, c'est incompréhensible, d'autant que beaucoup de choses posent vraiment des questions. Je trouve que les exclusivités jusqu'à présent, il n'y a rien de vraiment transcendant, à part un jeu, je vais en parler tout à l'heure, mais il y a quand même un jeu qui fait la différence, mais quand tu vois le reste du catalogue, même temps, on a été étonné avec Horizon, on s'est dit, mais c'est quoi ce truc, quoi.
Je te dis, Gab, miroir, parce que sur Xbox, qu'est-ce qu'il y a aussi de transcendant en tant qu'exclusivité?
Alors le problème, qu'il y a, je pense, avec Xbox...
Il répond pas à ma question.
non, mais je pense que Xbox, le problème qu'ils ont par rapport à PlayStation, ouais, c'est qu'ils n'ont pas tout le catalogue japonais. Les Japonais suivent toujours les développements sur PlayStation, mais pas forcément sur Xbox.
Oui, il n'y a pas le même type de jeu, effectivement. D'où d'ailleurs Starfield, premier aux USA, et à mon avis, ça m'étonnerait qu'il ait été premier au Japon.
Oh, c'est sûr.
c'est de façon ironique. Alors, tiens, Rowling, l'enquêteur, tu as trouvé quoi, Game Pass novembre?
Le Game Pass, je pensais que c'était pas sorti tout court. Pardon.
Oh, mais alors le mec.
C'est bon, je l'ai... Donc on a...
Riri, tu me manques!
Oh, mais Riri, t'aurais fait une blague avec des proutes et des pipis, c'est bon. Hein,
ouais, mais Riri, il bosse, Riri. Lui, il a eu le dossier, quoi.
Ah oui, vas-y, je t'écoute. Blague, hein, ça, il n'y a pas de souci.
S'il vous plaît. On a Football Manager 24. Je dis les plus grosses cartouches. Hein. On a Like a Dragon, Gaiden, The Man Who Wears His Name, le nom...
Ah, celui-là, quand même, c'est une erreur de cartouche. On est d'accord. Attends, tu te passes comme ça. Il est excellent. Je connais pas, mais...
Like a Dragon, Gaiden, The Man Who Wears His Name, je ne leur dirai pas, parce que c'est dur à dire.
Ouais, c'est long.
Laisse-le se le dire, c'est mieux, je pense.
Like a Dragon, Gaiden, The Man Who Wears His Name, was brought to Dark. Motherfucker, we're gonna be to fly. Il y a Persona 5
tactique. On a Dungeons
4. Ouais, le 4, là.
Et après, voilà, pour l'instant.
Après, il y a d'autres trucs, bon, voilà. Mais vraiment, attends. Like a Dragon Gaiden, il est en préco chez Sony, il a 80 balles. C'est comme une grosse cartouche. Bon, tout le monde n'aimera pas, mais c'est comme un gros jeu. Hein. Puis c'est des jeux qui sont chiadés, quoi. Ouais. T'as Persona 5 Tactica, pareil, qui est très attendu. Bam.
C'est très bon aussi, ça.
Day One dans le Game Pass. Bon, Football Manager, c'est pas mon genre de truc, mais bon.
On en aura d'autres qui seront annoncés. Et on a aussi FR Manager 23 qui arrive dedans.
Ouais, non, mais c'est sûr que l'éditorial n'est pas mauvais ces derniers temps. Ça pose beaucoup de questions. Le tarif est quand même mieux placé que ses concurrents. Ça pose beaucoup de questions. Pourquoi Sony marche sur l'eau? Il jouit vraiment de son image de marque
qui date
depuis la PS2. Mais...
Il y a Dead Space qui arrive là. En octobre. Ah oui. Dead Space qui arrive en le remaster.
Grosse cartouche aussi. Il a bien fait d'attendre de l'acheter parce qu'il arrive.
Oui, il le sort pour Halloween là. Et bam. Ce qui est malin, bien sûr. Il y a plein de grosses cartouches. Hein.
Mais attention, parce que je pense que même si nous on est dedans, on baigne dedans, forcément on voit les choses plus. On est plus à même de peut-être de voir ces choses-là et voir qu'on.
Ah, ça y est, le micro est parti. Dans...
Qu'est-ce qu'il y a?
Non, ton micro, elle fait ah, si.
Moi ça marche bien.
Non, vas-y,
autant. Non, je l'ai bien entendu, moi. Vas-y, mon gars, continue, non?
Non, alors, attends, je dis attention parce que nous, on est le nez dedans et on voit vraiment que Sony commence à prendre une mauvaise tangente. Je doute quand même qu'à un moment donné, ça se voit pas non plus auprès du grand public, les gens qui sont moins forcément informés, et que ça puisse continuer comme ça à nager sur l'eau. L'air de rien, Microsoft qui rachète Activision Blizzard, ils vont pouvoir aussi imposer la marque Call of Duty, la marque des jeux Blizzard à Xbox et non plus à Sony. Sony a longtemps joué de ça aussi, c'est ils avaient des campagnes marketing agressives où on a collé des jeux qui n'étaient pas forcément des exclus Sony à la PlayStation. Donc, je ne sais pas. Ces choses-là peuvent changer. Et il suffit aussi d'une mauvaise manœuvre de Sony pour que derrière, ça bénéficie à Microsoft et vice-versa, d'ailleurs.
Il y a un truc qui est bien aussi qu'a dit Phil Spencer, c'est de... restructurer un peu l'équipe. Non, ça, bon, il a dit dans les grandes lignes, mais par exemple, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes qui sont allouées à Call of Duty. Moi, je pense aux gens de Vicarious Vision qui font les Crash Bandicoot. Ils sont alloués depuis quelques années à faire que du compte pour Call of. Et ça, il y a des licences qui prennent la poussière. Et à ce que j'ai compris, ils voudraient en faire ressortir certaines. Comme il a dit, hein, refaire un Call of peut-être tous les 2 ans. Et puis les équipes soient sur d'autres jeux en parallèle.
Je pense à un très gros jeu, là, Diablo 4, pareil. Je voulais me l'acheter, mais je vais attendre. Hein.
Il est bon.
Je vais attendre.
Alors d'ailleurs, il y a un truc très maladroit, c'est que la vidéo de promotion du Xbox pour dire c'est bon, on a acquis Activision Blizzard, montre des jeux forcément comme Call of, et dedans on voit passer un moment Diablo 4. Et en ajoutant, il parlait des games. Donc, il y a un gros doute, mais pour moi, Diablo 4 ne sera pas dans le Game Pass.
Je n'ai pas compris ça. Ton micro a coupé par contre, Rolling, toi. Il a vraiment coupé.
Ouais, voilà, j'ai bien entendu se couper. Hein. C'est peut-être chez toi que tu as des soucis.
Pardon,
c'est à Brive-la-Gaillarde. La fibre, c'est pas non plus ce que c'était, quoi. Vas-y.
Excusez-moi. Donc, je disais, oui, il y a une vidéo promotionnelle de Xbox pour acter le rachat. Et on se disait, ouais, on voyait le Game Pass, on voyait Call of, et à un moment, on voyait aussi Diablo 4. Il a eu un doute, parce que Diablo 4, il n'a jamais été annoncé pour le Game Pass. Il ne sera peut-être jamais, hein. Mais alors, j'aimerais bien qu'il y soit, mais je pense que ce ne sera pas du jour au lendemain.
C'est ce que disait Blizzard du temps où il n'était pas encore Microsoft, mais peut-être que Microsoft ne laissera peut-être pas non plus le choix à un moment donné. Parce que...
Et qui est le patron ?
Voilà, c'est qui est le patron ? Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que Diablo 4 a fait pas mal couler d'encre ces derniers mois parce que tout n'était pas rose pour le endgame, mais la dernière saison, elle envoie du pâté. Donc,
Et comme tu dis, Gab, ils ont pas foutu 69 milliards sur la table pour s'entendre dire non, on a dit qu'on le mettait pas. Attends, les mecs, attends, les gars, t'es bien gentil, mais j'ai racheté les meubles, la peinture et la moquette. Alors, Diablo 4, si je le mets dans mon Game Pass, je le mets dans mon Game Pass, quoi.
On sent aussi que Activision a fait tout un travail pour rendre leur jeu attractif avant leur rachat par Microsoft. Donc, il va y avoir un appel d'air. Il y a vraiment intérêt à l'entrer dans le Game Pass et profiter de cet appel d'air. Je suis hyper confiant là-dessus. Même si les interviews disaient le contraire, à un moment donné, faut pas se leurrer, ça va finir dans le Game Pass, d'une manière ou d'une autre.
Obligé. C'est Bobby Kotick. Kotick ou Kotick ou Kotick, je sais plus.
Kotick.
Bobby, lui, pareil, il est content. Hein,
ah ouais,
il se casse avec son parachute doré. 300 millions, 400 millions.
Ouais. Oh, bah, c'est grand que ça. Il a eu, non, alors, c'est 18 millions, je crois, son chèque de départ. Mais quand on sait que, vu comment sont valorisées les actions Activision Blizzard par le rachat de Microsoft, oui, et que lui en détient plus de la moitié, ça devrait passer.
Ces mecs-là, ils font ce qu'ils veulent. Là, je pense à Bobby Kotick qui a fait de la merde. Il va sortir par la grande porte avec un parachute doré. Je parlais de John Riccicillo chez Unity qui a planté la boîte puis qui va partir avec un pactole incroyable. C'est que là, en fait, ils font
Lui, par contre, le mec de Unity, il a vendu ses actions, mais il a racheté celles d'Activision Blizzard. Il est pas con, le mec.
Ça s'appelle le capitalisme. Ceux qui découvrent ça, c'est la base du capitalisme. Il n'y a pas de loi, c'est la jungle.
Ouais. Ouais. Exactement.
Mais oui, c'est acté comme quoi Bobby Kotick partirait début 2024, en janvier apparemment.
Ouais, et il va partir chez Greenpeace, je crois, à faire des
recaricatures. Il va faire une ONG avec John Riccicillo et puis tout le travail là.
Complètement. Bon, voilà, Xbox, c'est fait. Microsoft a racheté Activision Blizzard King pour 69 milliards de dollars et on verra bien ce qu'ils vont en faire très rapidement. Voilà.
Ah, est-ce qu'il faut le rappeler, hein, King,
je sais
King,
pas
parce
si...
que King, c'est
j'espère
les gens
juste,
qui font...
J'espère juste, ouais. Je coupe Rolling, j'espère juste qu'on n'aura pas une mauvaise nouvelle en 2024 ou un peu plus tard avec une vague de licenciements chez Activision Blizzard.
Alors,
King pour les doublons, des machins, voilà, c'est. J'espère pour
c'est un risque, hein, parce que là, actuellement, les vagues de licenciements, ça va, ça vient, mais on a un
sujet.
On va en parler,
on va en parler.
Les auditeurs, ouais, voilà. Et j'ai une théorie sur le sujet.
On en parle juste après alors ?
On en parle après, ouais.
Yes.
Allez, voilà pour la grosse actu. On fait un coin de rumeurs très rapide, vous allez voir. Et après, on se retrouve pour justement le sujet des auditeurs et on reviendra justement sur
les
ça. Ah oui, il y en a deux, pardon. Sur les vagues de licenciement, on va regarder ça. Allez, le coin des rumeurs très rapide.
Pony Gamer, le podcast.
Coin des rumeurs, alors il n'y en avait pas, puis je la mets quand même, j'y croyais pas du tout, je n'y crois d'ailleurs toujours pas, mais enfin voilà, c'est dans le coin des rumeurs, donc voilà, c'est une rumeur à prendre vraiment avec plus que des pincettes, hein, là oui. C'est vraiment quelque chose de quoi je veux parler, puisque je vais vous parler de GTA 6, voilà, qui est déjà en soi une rumeur sur sa sortie, et je vais rajouter une autre rumeur à cette rumeur, qui est, on va parler de la Switch 2, qui est déjà en soi aussi une rumeur, puisque certaines personnes, dont Necro Felipe, qui est rédacteur en chef du Universo Nintendo sur Twitter ou X maintenant, qui a révélé des rumeurs passées qui sont vérifiées. Donc c'est quelqu'un de très bien informé. Mais là, il en a sorti une belle, puisqu'il a dit que GTA 6 pourrait sortir sur la future console de Nintendo, qu'on appellera la Switch 2. Donc vraiment, vraiment, même moi, je n'y crois pas trop. Alors j'y tiens, j'en profite qu'il Gab est là. Alors, on n'a pas la config, bien sûr, de la future Switch. On pense que ça sera une PS4, voilà, à peu près, au niveau de puissance. Est-ce que GTA 6, qui sera un jeu only nouvelle génération, sortirait sur la prochaine console Nintendo? J'ai un doute, très franchement.
C'est à dire parce qu'il y a peu de choses qui filtrent réellement sur la future Switch.
Ouais.
Si effectivement, c'est du niveau d'une PS4, on peut faire tourner quand même beaucoup de choses sur une PS4. Alors, il va y avoir du downgrading, c'est possible, mais tout est possible. On a vu The Witcher 3 tourner sur une Switch, et pas forcément dans un état non plus catastrophique.
Ah, c'était même plutôt pas mal. Donc, quand même plutôt pas mal.
Avec une bonne équipe qui est capable de faire un bon boulot de conversion, tout est possible. Et inversement, moi, de ce que j'ai vu de GTA 6, pour l'instant, il y a le peu d'images qui a filtré. Il n'y a pas un bon graphique de dingue par rapport à GTA 5, qui date déjà de la PS3. Voilà. Maintenant, comme on parle vraiment en ne sachant ni à quoi va ressembler
GTA 6, c'est la rumeur dans la rumeur, quoi. Le jeu est une rumeur sur une console de rumeur. Mais bon, voilà, je voulais vous en parler. Voilà, c'était ma petite rumeur de la semaine. Et donc, pourquoi pas? Allez, on restera sur un pourquoi pas. En tout cas, ça serait marrant dans quelques années. Ah tiens, on l'avait dit.
De toute façon, dès que GTA 6 qui sort quelque part, le moindre mot, tout s'enflamme.
C'est pas forcément GTA, mais c'est juste avoir un GTA sur une console Nintendo. Ça n'est jamais arrivé, en fait.
T'as la trilogie, là, qui est sortie.
T'as la trilogie, ouais. Qui était toute cassée, ouais, c'est sorti d'ailleurs. C'était horrible.
Ouais, qui était toute cassée. Mais bon, pas que sur Switch, d'ailleurs.
Oui, pas
ça m'avait pas marqué.
On est passé un peu à côté. Voilà pour la rumeur. Allez, tout de suite, on va passer au sujet des auditeurs. C'est parti.
Pour une poignée de gamer, le podcast.
Sujet des auditeurs, messieurs, c'est Lux is back qui nous l'a proposé dans le Discord. D'ailleurs, il est là, il nous écoute, je crois. Si tu veux prendre la parole, Luc, n'hésite pas. Hein, tu as dans le Discord.
L'inviter parce que du coup, les deux sujets qu'on va traiter, c'est les siens. Comme ça, s'il veut intervenir, il n'aura même pas besoin de lever la main.
Ouais.
On verra.
On verra. Si tu veux, n'hésite pas en tout cas, Luc. C'est avec un grand plaisir. Donc, ce sujet, c'est tout simplement. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure dans les sujets précédents avec le rachat d'Activision au Blizzard King. Je cite. Il nous a écrit « Sinon, en termes d'actualité, c'est moins fun, mais une analyse poussée de la vague de licenciement qui touche l'industrie serait hyper intéressante, histoire de comprendre en détail les tenants, les aboutissants. » Alors, le détail, je te le promets pas, mais on va essayer de voir un peu pourquoi, effectivement, de plus en plus de studios, là, récemment, procèdent à des vagues de licenciement. Messieurs, je vous laisse la parole, parce que je ne suis pas hyper calé sur le sujet, justement.
Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que depuis le Covid, et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans toute l'activité informatique, le coût des ingénieurs, des développeurs et tout ça, a énormément augmenté. On a pris presque 20 ou 30% sur les salaires. Donc, il y avait déjà une première analyse économique que j'avais vue.
Ah bon, parce que moi je n'ai pas vu l'augmentation, hein, 30%
non, mais
sur mes salaires.
Toi, tu es professeur des écoles, donc toi, de toute façon, tu ne travailles pas, comme tout le monde le sait.
Et, oui, c'est vrai.
Ça, voilà, tu as tout le temps des vacances, tu connais le topo. Donc, les informaticiens, c'est vrai que depuis maintenant quelques années, bah, ils nagent, enfin, ils sont dans un milieu où l'embauche est assez facile. Et c'est valable dans surtout les secteurs de l'informatique, ce qui explique une envolée des salaires. Et je pense que ce mouvement-là qu'on a pu voir, mais qui date pas que de maintenant, on l'a déjà vu un peu avant, il avait été un peu prémédité en disant le seul moyen que va avoir l'IT de faire baisser les salaires, ça va être de faire des plans de licenciement. Alors, on l'a vu au tout début avec Facebook, les géants de l'IT, Facebook, Google et tout ça, qui ont fait des gros licenciements. On a parlé de Google, on a parlé de Facebook. La première analyse qu'il y a eu autour de ça, c'est de dire c'est pour faire baisser les salaires. Puis sont venus les éditeurs de jeux vidéo derrière qui ont fait le même mouvement. Alors que le marché n'est pas tout à fait le même, mais il y a quand même des compétences communes. Donc je pense que ça, c'est un des premiers éléments. C'est qu'effectivement, il y a peut-être une période où il y a eu un gros besoin, puis les salaires ont trop augmenté, puis ben, à un moment donné, il y a eu peut-être aussi une sorte de corporatisme qui s'est mis en place auprès du secteur de l'informatique pour dire il faut qu'on fasse un mouvement arrière en faisant c'est des plans de licenciement. C'est une possibilité, mais il n'y a pas que ça. Ce qu'on voit aussi, c'est que beaucoup sont basés sur le fait qu'au Covid, il y a eu une explosion du marché du jeu vidéo, et ils ont à ce moment-là beaucoup embauché en espérant bah voilà, profiter de comment on appelle ça, cette hausse du marché pour bah, continuer à alimenter le secteur de jeux vidéo et peut de gagner de l'argent dessus. Donc, sauf que bah, on s'est rendu compte qu'après le Covid, bah, les choses seront devenues normales et il y a eu une baisse naturelle ou un rééquilibrage naturel en tout cas du marché. Donc, bah, tous ces investissements qui ont eu lieu pendant le Covid, bah, on s'est dit oulala, ça va nous coûter de l'argent. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les plans de licenciement, ils sont essentiellement européens et occidental, voilà, européen, occidental, mais touche très peu le Japon. C'est ce que j'ai vu aussi. Et d'ailleurs, les Japonais ont beaucoup moins parié sur cette flambée du marché du jeu vidéo. C'est aussi deux façons de voir, hein. Deux OSR, c'est très 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 opposé le mode de fonctionnement entre le Japon et le reste des pays qui font des jeux vidéo. Et on se rend compte que après les grosses sorties de jeux récentes, généralement, il y a un plan de licenciement qui vient couper les effectifs, les équipes qui ont fait le dernier jeu sorti pour quelque part bah, profiter des ventes du jeu et en même temps plus avoir les coûts structurels avec les employés. Donc c'est vraiment des manœuvres capitalistes de capitalisme basique qu'on peut voir dans beaucoup de projets où tu rachètes une boîte, tu profites des ventes et en même temps tu coupes dans les effectifs. Comme ça, tu as deux leviers, tu as moins de coûts de fonctionnement et tu as plus de coûts de bénéfices avec les ventes. C'est ce qu'a voulu faire par exemple Elon
Oui.
Musk avec X. Bon, ça a moins bien marché.
Oui, c'est encore autre chose, ouais. Mais tu vois, regarde là, on en parlait
Vas-y.
une dernière là, donc les licenciements chez Epic Games, chez Telltale Games, chez Rockstar. Et là, tu parles de jeux sortis récemment qui ont licenciement. On en a parlé tout à l'heure dans l'arrivée dans le Game Pass. C'est FR Manager 2023. Donc c'est développé par Frontier Development, un studio anglais. Donc le jeu est sorti il y a 2 mois, je crois, 1 mois ou 2. Arrive dans le Game Pass maintenant, et là on apprend qu'ils font face à des difficultés financières, ils vont devoir licencier des personnels. Donc clairement, des jeux mis en avant comme ça, et puis on prend le revers de la médaille.
Mais
Là.
oui, parce qu'il y a des studios qui sont de plus en plus dépendants au hit, et les studios ils misent souvent sur quelques jeux phares pour générer la majorité de leurs revenus. Et si l'un de ces jeux ne se vend pas aussi bien que prévu, ben, cela peut entraîner des licenciements, c'est clair et net,
Mais là,
quoi.
c'est le cas. Hein. C'est le jeu qui est sorti en octobre, donc il y a quasiment 1 mois.
C'est-à-dire que les coûts de développement des jeux vidéo ont tellement augmenté ces dernières années, en plus avec les nouvelles générations, il y a des cycles de développement qui sont de plus en plus longs. Donc, c'est vrai, on concentre des équipes sur des jeux, on s'éparpille un peu moins. Et si ce jeu se plante, bah écoute, c'est tout le studio qui en pâtit, quoi.
Et
Il y a
maintenant, c'est
ça?
très friable. Hein. J'écoutais, alors j'ai plus le nom de tête ni le studio, je suis désolé. Il parlait, c'était Gotoz, qui parlait d'un jeu qu'il attendait pas mal, qui est sorti, et une semaine après, avec les chiffres se vendaient pas très bien, ils ont carrément supprimé le jeu, coupé tout de suite, au bout d'une semaine, parce que les prévisions de vente n'étaient pas bonnes tout de suite
Ouais.
maintenant. Que
Mais
c'est.
il y a quand même un truc qui est flagrant, c'est que c'est le modèle américain qui a pris le dessus sur toute la filière de jeux vidéo, et c'est pour ça que c'est devenu une industrie, c'est qu'on utilise vraiment ces mécaniques qu'on appliquait jusqu'à présent aux industries, qui étaient de faire des coupes tout de suite humaines dès qu'il y a un risque, globalement. Et c'est pour ça que j'ai mis en parallèle le Japon, parce qu'au Japon, on ne voit vraiment pas ça. Et je voulais juste reprendre ce qu'a dit Shigeru Miyamoto, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas cité, et également Iwata, quand il était encore vivant, chez Nintendo. C'est une anecdote que j'avais lue, je sais plus, je crois que c'est dans Le Monde ou sur Gamecult, où tu as Iwata qui, pendant la réunion des investisseurs, bah, il parlait de jeux vidéo, il parlait Nintendo et tout ça, et puis à un moment donné, il y a la question des... Pardon. Il y a la question des investisseurs.
Pas, là. Il est en train de vomir en douillette en direct, monsieur l'homme.
Je suis en train de mourir, c'est pas grave. Il y a la question des investisseurs qui arrivent, donc il y a beaucoup d'investisseurs qui posent des questions sur le jeu vidéo, et à un moment donné, il y en a un qui commence à prendre la parole et dit à Iwata, mais monsieur Iwata, je ne comprends pas, on est là à une réunion d'investisseurs, nous on attend d'avoir des retombées économiques sur nos investissements, et vous, vous ne nous parlez que de jeux vidéo, vous ne parlez pas, parce que c'est à l'époque de la Wii U, comment vous allez faire pour redresser la boîte, pourquoi vous ne proposez pas de licenciement et tout ça. Et il y a Iwata qui a pris la parole en disant, écoutez monsieur, nous on est une société de divertissement, on n'est pas là pour, si on veut faire du divertissement, on n'est pas là pour mettre la corde au cou à nos employés, à les menacer de les licencier à la moindre erreur de notre part, et si on veut que le divertissement soit bien fait et fait dans des bonnes conditions, il faut que nos employés soient heureux de venir travailler chez nous sans avoir la peur au ventre. Et en gros, il rappelait que eux, leur métier, c'était de faire des jeux vidéo et c'était pas de faire vivre des investisseurs. Contrairement aux sociétés européennes qui sont sous la pression des investisseurs. Là-bas, on sentait que le rapport de force était inversé. En tout cas, dans la réunion, je dis bien, c'est les paroles d'Iwata et de Miyamoto lors de cette réunion. Et je crois que c'est dans Sumimasen Turbo, cette semaine ou la semaine dernière, ils ont fait pareil une petite analyse après coup de ça, et ils disaient à peu près la même chose en substance, en disant que les studios japonais étaient moins enclins à licencier des équipes qui avaient de l'expérience, parce que l'expérience, c'est ce qui primait avant tout par rapport au risque capitalistique. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais c'est vrai que les paroles qui ont pu être dites publiquement correspondent à ce qu'on peut constater actuellement.
On n'aura pas de réponse. On n'aura pas une seule réponse à cette question. On n'aura pas une seule réponse à cette question. Donc, c'est plein de facteurs. Effectivement, on a parlé que le post-Covid, voilà, il y a eu une vente des jeux vidéo qui ont explosé. Et puis après, il y a eu le creux de la vague, quoi. Il y a un coup de mou. Donc, sur quoi on peut ajuster. Ouais, voilà, ils veulent toujours être dans la croissance hyper haute. Et sur quoi on ajuste, on ajuste sur le personnel. Donc, on licencie. Voilà. On n'a pas autant de bénéfices que souhaiteraient certains actionnaires. Donc voilà, on est obligé de.
Oui, en plus, il y a des mécaniques de croissance qui sont d'une année sur l'autre. On veut que le bénéfice de l'année précédente soit supérieur. Et forcément, à un moment donné, si le marché ne gonfle pas, ça marche plus, quoi. Donc, ouais. On n'est pas à des entreprises. Il y a quand même des entreprises qui, dans le tas, qui vont bien, qui n'ont pas de problème financier. Mmh. Je pense à Epic, qui ont fait des mauvais choix, qui ont eu des coûts supplémentaires qui n'étaient pas prévus. Mais financièrement, ils ne vont pas mal. Mais ils font quand même des coûts.
Epic, ils n'ont pas viré 800 personnes, là ?
Mais oui, c'est ça.
Oui, si. Ouais. Non.
Et on peut parler d'Activision, qui avait fait exactement la même chose à une autre époque. Ils avaient supprimé je ne sais pas combien d'emplois, alors qu'ils avaient fait une année record de leurs bénéfices. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant.
Et justement,
il y a aussi pas mal... Je lisais, très rapidement, ils externalisent beaucoup, de plus en plus les studios. C'est de nombreux studios sous-traitent certaines parties de leur développement, et ça entraîne aussi des fluctuations de personnel aussi. Hein. De plus en plus, quoi. Bon, vas-y, Rolling, vas-y. J'ai balancé ça comme ça.
Oui, ils externalisent
question
beaucoup.
Question Gabriel.
Oh, on a perdu Rolling.
Rolling, vas-y, on t'écoute. Oui. Ah, les mecs, ça mange de l'andouillette, ça ne sait pas brancher une prise USB.
Ah, mais je crois que le micro, il ne s'est pas remis de l'andouillette. Là. Il y a des vapeurs d'andouillette.
Il y a des vapeurs.
Oh putain, ça sent le cul. Ouh, yuyuyuyuy. Ah bah voilà, on a perdu Rolling. Merci Rolling, c'était très intéressant. Alors, juste pour répondre du coup à Lucie, qui disent que c'est une ubérisation du monde du jeu vidéo, on le voit déjà, hein, il y a beaucoup de sociétés de sous-traitance qui viennent faire les jeux vidéo pour d'autres sociétés. Il y a beaucoup de prestataires aussi. C'est quelque chose, malheureusement, d'assez commun dans ce milieu-là.
Mmh. Ah, me revoilà.
Complètement. Ah tiens, ça va ?
C'est bon ?
Bon, Rolling.
Ça va. Putain, vis ma vie de Gab. C'est compliqué. Hein.
Et ouais. Il va avoir au final un meilleur son que toi. Terrible. Tiens. Terrible. C'est terrible.
Ma question, pendant que ça fonctionne, c'était, est-ce que maintenant qu'en Amérique, on a beaucoup de studios comme Activision, par exemple, qui ont des syndicats, qui se syndicalisent, est-ce que ça peut rendre ces mécanismes de virer des gens moins faciles? style plus structuré pour les employés?
Alors, je te dirais que non, parce que même en France, qui est un pays où le syndicat a encore pas mal de droits par rapport aux États-Unis, quand on a vu que Activision Blizzard a décidé de fermer leur site dans des conditions infâmes et hors du cadre de la loi, ils ont quand même pu le faire. Donc, j'imagine qu'aux États-Unis, ça sera encore plus compliqué. Mais voilà, de pouvoir faire front face à. Non, clairement non. Là, on a vu vraiment du poids, c'est au niveau des corporatismes, façon comme il peut y avoir à Hollywood, où tu as tous les scénaristes qui se mettent en grève ensemble et ils font bloc. Et quand tu n'as plus de scénaristes sur le marché du travail et que tu peux pas virer tes scénaristes parce qu'ils sont tous pas forcément salariés mais payés en tant qu'indépendants, ben, tu es obligé de te remettre à eux et discuter avec eux. Mais dans ces cas, il faut que ça soit l'ensemble de tous les développeurs de jeux vidéo qui s'y mettent en même temps, tu vois. Ça ne marchera pas autrement.
Ok, moi je me demandais si ça pouvait être lié à ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, toutes les semaines, on parle de studios qui font des licenciements à droite, à gauche.
Ouais, je
Mais
propose qu'on oublie.
de même qu'on ne parle pas non plus quand les studios embauchent à droite et à gauche. Hein, voilà, on en parle justement quand des
Oui.
licenciements. Bon, voilà. Effectivement, en ce moment, c'est plutôt le creux de la vague. On n'aura pas répondu complètement en détail à cette question. C'est un vaste sujet. En tout cas, on a essayé du moins de l'aborder et d'avoir donné quelques réponses parce qu'elles sont multiples, je pense. On va changer de sujet maintenant.
Un sujet plus léger, beaucoup plus léger.
Beaucoup plus léger.
Il n'y a pas de
Alors, je ne sais
mal.
pas qui c'est qui l'a proposé ce sujet. Alors, tu m'as marqué, Gab,
C'est
top
Lucis
3 des
Black
musiques.
aussi. C'est Lucis Black qui a demandé le
Ah
top
oui, disons, il
3
est encore le Lucisback. Voilà, vous avez pris que
notre
du
top
Lucisback.
3 des musiques qu'on a pu avoir ces 3 dernières années, entre 2021 et 2023. Donc c'était très très précis. Et moi ça m'a inspiré
Ah,
parce que du
sur
coup.
3 ans. Ah ouais.
Eh oui, le stéréo PPG malheureusement est un peu en pause en ce moment. On peut pas trop parler de musique de jeux vidéo. Et ces dernières années, il y a quand même plein de choses sympas qui ont passé. Alors peut-être que je vais vous laisser parler parce que moi j'ai plein de choses à dire. Et je préférerais vous
Ah ben
laisser
moi,
parler
là, tout de
avant
suite,
d'en dire
j'avais
trop.
prévu un top de plus de 3 ans. Mais les 3 ans, ouais, clairement, une des OST qui m'a plus marqué, que j'écoute souvent, c'est l'OST de Returnal, qui est très très bonne,
Qui est
souvent quand je
énorme.
travaille. Donc ça y a une ambiance superbe. Returnal, qu'est-ce que j'ai? Ben Elden Ring, ça marche bien. C'est plus discret à un moment, mais c'est assez intéressant ce qu'ils ont pu faire. Et le troisième, je vous laisserai parler, je vais chercher.
C'était de quand à quand les dates?
Bah, c'est les trois
T'as
dernières
3
années,
ans.
2021, 22, 23. Et déborder un peu sur 2020, t'as le droit si t'as pas trop d'idées, mais voilà.
Ouais, 2020,
Il y a eu
ouais,
beaucoup de
j'avais bien
choses en
aimé le
2020.
Ori and the Will of the Wisps. C'était une BO qui était composée par Gareth Cocker, qui était assez agréable. C'est joli, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé le jeu aussi. En général, quand j'aime le jeu, la bande son, voilà, si elle me plaît, j'accroche. Pareil, je reste dans le 2020, mais j'avais bien beaucoup aimé aussi celle de The Last of Us Part 2. C'est Gustavo
Ah,
Attends, comment ça?
voilà,
Ouais, voilà,
Tontawala.
Santaolalala qui faisait ça.
Ouais.
Et McQuailey qui ont fait la bande son de ce jeu qui était assez acclamé pour son atmosphère et sa puissance de composition musicale. C'était assez sympa.
C'est surtout que
En deux.
dans le style, juste pour revenir sur The Last of Us 2, dans le style juste
Ouais.
guitare sèche et très artistique, c'est qu'il y a vraiment un choix artistique qui a été fait. Il y a peu de jeux qui se permettent de faire ce genre de choix, surtout sur des jeux AAA. Et c'est vraiment très saluable parce que beaucoup de AAA, je trouve aujourd'hui, ont standardisé leur musique. Donc là, on a vraiment affaire à un truc assez hors du commun.
Ouais, et je reviens un petit peu comme avait dit Rowling, elle m'avait beaucoup marqué comme le jeu de Elden Ring. Ouais, j'avais beaucoup aimé aussi l'ambiance d'Elden Ring, les musiques étaient
Là, c'est
assez sympas.
une question de. Ouais, vraiment.
Ouais.
Et après, en
Alors,
troisième,
ressent.
après, ça date plus, mais une musique qui m'a beaucoup marqué, c'est 2016, maintenant que c'est un peu plus loin. C'est l'OST du fameux, dont on parle souvent ici, qui est quand même extraordinaire. La
Bah oui.
musique est vraiment
Ah, c'est
de
le seul point
super
fort du
qualité.
jeu, on peut le dire. Hein,
Je l'écoute encore
le.
très régulièrement.
Elle est excellente, hein. L'OST d'FF15, c'est vraiment quelque chose. C'est un petit bijou. Mais bon, voilà, c'est pas n'importe qui l'a composé aussi. Donc, rendons à
Et
César ce qui
toi, ton top
appartient
3,
à
Gab?
César.
Et tiens,
Alors.
pour juste pour avant de te couper, Gab, pour les Grammy Awards avaient donné la meilleure jeu vidéo, c'était Assassin's Creed Valhalla en l'année dernière.
Ouais,
Musique. Je sais pas
d'accord.
ce que vous en pensez. J'ai pas joué, je peux pas vous dire.
C'est
Non plus.
bien hein, ce qu'ils ont fait sur Assassin's Creed Valhalla. Je trouve juste que c'est Jester, j'ai plus son nom, le compositeur de Assassin's Creed, mais il fait un très bon boulot. Maintenant, c'est déjà entendu, c'est convenu. Je trouve que ça manque de fantaisie par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude. Comme de toute façon, Assassin's Creed, ça rentre vraiment dans un moule. Sur les trois dernières années, il y a beaucoup, beaucoup de super bonnes OST. Je trouve que de toute façon, plus le temps passe et plus les OST elles sont vraiment de mieux en mieux. On a
Céleste,
moins en moins.
J'adore Céleste.
Ouais. Alors Céleste, justement, la compositrice, c'est Lena Raine. Elle a fait aussi récemment Chicory, qui était une OST très.
Ah, je l'ai
très,
pas fait.
Il n'en vient
pas d'ailleurs.
Colorful Tale.
Ouais. Ouais.
Ouais.
Qui est très très chouette, mais je voulais pas parler de ça.
Oui.
Je commence déjà à digresser, c'est pas bon.
Elle a fait Moon Glow Bay aussi.
Alors, pour moi, le problème, c'est que voilà, je faire un top 3, ça a été très délicat, sachant qu'il y a
Vas-y.
Beaucoup de jeux que j'aime bien. Il y a quand même un jeu pour moi qui se démarque vraiment de toute la production de ces dernières années, qui domine vraiment tout le game. Je vais juste reciter des jeux que j'ai fait, que j'ai vraiment adoré avec leurs OST. C'est Chain Echoes, qui reprenait vraiment la façon Uematsu.
Chain Echoes Echoes, quelle Echoes?
La mycose des pieds, mec, tu la connais, celle-là?
Oh, si c'est que des pieds, ça va. Chain Echoes, ouais, qui est ouais. Aussi sur Game Pass, très bon.
Voilà, il y a Industries of Titan, qui est beaucoup moins connu, mais qui a une OST qui est faite par le compositeur de Crypt of the Necrodancer, qui est juste excellent, l'OST d'Industries of Titan. Ce que je pouvais dire aussi, c'est côté japonais, on n'a pas eu de grosses OST ces dernières années, même si Nier est sorti avec son remake, mais ça, c'est une OST qui a déjà 10 ans. Donc ça compte plus trop. La seule OST japonaise que j'ai vue qui vaille vraiment le détour, c'est Triangle Strategy. Ces trois dernières années, je trouve que l'OST de Triangle Strategy, c'est vraiment un petit bijou. Et il y avait également The Ascent. Alors je sais pas si c'est japonais ou pas, The Ascent, mais l'OST, elle est dingo, comme j'ai rarement entendu pour un petit jeu de ce niveau-là. Et enfin, je vais parler de mon petit chouchou dans tout ce que j'ai pu sélectionner là dans les dernières années. Pour moi, celui qui a fait un truc fou, c'est un jeu qu'au départ, j'ai vraiment laissé de côté en disant « Ouais, c'est pas terrible et tout ». Je suis revenu dedans. Déjà, j'ai trouvé le jeu incroyable dans ce qu'il pouvait proposer.
Est-ce que ça commence par un O?
Eh ben non, ça commence pas par un O.
Ah bon.
Ah, tu trouveras pas.
Je crois que c'était Outer Wilds que t'allais me dire.
Alors, Outer Wilds, là, l'OST, elle est folle aussi. Hein, mais c'est là, on est pour moi un gros cran en dessus au niveau OST et au niveau jeu, tout simplement. C'est unique. Alors, on n'était pas d'accord, on en avait parlé à un moment où vous trouvez le jeu bof bof bof, mais l'OST est unique, c'est un bijou. Le thème principal, il est magique. Je sais pas comment expliquer cette musique, mais on est bien dans le jeu, on est dans des pantoufles. On est accompagné avec cette musique qui est complètement enivrante de bout en bout, qui colle parfaitement à ce qui se passe à l'écran. Et je pourrais parler du jeu maintenant avec du recul parce que je l'ai fini il y a maintenant un petit temps, et ce jeu-là en fait m'a laissé un souvenir vraiment impérissable. C'est voilà. Et la musique, il y a.
Je l'ai mis de côté aussi. Ouais. Et dans le même genre de Zelda like avec une très bonne musique, et que j'ai un jeu que j'avais bien aimé aussi, c'est Death Doors. Je sais pas si vous l'avez fait. Il est aussi dans le Game Pass d'ailleurs. Je
dis ça chaque fois. Mais... Ouais, Death Doors avec le petit corbeau là, c'est très bon.
Hein. Le petit corbeau, ouais. Zelda like aussi dans le même genre.
Il y a également.
Je l'ai noté quelque part. Death Doors, c'était David Fane qui signe cette composition. Tu dois connaître le nom David Fane.
Non, ça me parle pas.
Non, d'accord, ok. Bon,
je connais pas tout le monde, à un moment donné. Non, mais je me documente avec les stéréos, donc les noms, je les retiens. Mais c'est vrai que si j'ai pas fait un jeu où j'ai composé, je l'ai pas forcément.
Oui, forcément.
Y a Aurélien Roy aussi qui a fait deux OST récentes qui sont excellentes. C'est celle de Humankind et de Endless Dungeon qui est sortie cette semaine d'ailleurs.
Oui, pas qui est très très chouette.
Les OST sont. Bah, Aurélien
Arnaud
Roy, super OST. Ouais.
Arnaud Roy,
c'est là dans... Tu vois dans le chat, on a Tomouf qui nous dit Histoire. Donc ça t'avait parlé de ce jeu là Gab.
Eastward, ouais très cool hein.
Deathloop
ça,
de chez Arkane.
Ça fait 3 ans je crois Eastward, ou je me trompe hein, mais...
Ouais ça va être tout juste dans les 3 ans Eastward, ouais.
Bon, là, vous en vouliez 3, vous en avez 56, donc vous faites d'autres choix
et Disco Elysium.
Ouais, Cyberpunk, t'as raison. Hein. Et là, en plus, ils ont fait l'OST. J'ai écouté l'OST de l'extension que je n'ai pas encore faite. Il y a des petites perles dans ce qui a été fait. Mais bon, c'est pareil. Là, pour moi, Cyberpunk, c'est convenu. C'est les créateurs de l'OST de The Witcher 3. Qui une OST qui, pour moi, est d'un autre cran. Qui est d'un, voilà, The Witcher 3, de toute façon, ça reste dans le top des OST de jeux vidéo qui n'ont jamais été composés. Et voilà, je vais arrêter là parce que j'ai pris tellement de notes, tu vois. Deux pages de notes sur les. Faites votre choix de façon. Des OST de qualité, il n'y a que ça. Par contre, Tunic, il y a une version piano de Tunic. C'est là où je me suis rendu compte du boulot qui a été fait. Il y a des choses, des sonorités qu'on n'entend jamais dans le jeu vidéo. C'est magnifique, vraiment. Ouais, voilà, on mettra peut-être une musique de Tunic à la fin du podcast pour le principe. Pour le
Allez, plaisir. Si tu veux. Et tiens, pour le petit truc, Tunic va sortir en version boîte Switch le 26 octobre. Donc c'est dans 2 jours, si ça vous dit. Voilà.
Ah ben, je pense que je ferai l'investissement parce que c'est vraiment une pépite de jeu. C'est du Outer Wilds, voilà. C'est du même niveau que Outer Wilds.
Salut Tomouf,
excellent. Et salut à tous.
Bah vas-y Tomouf, lâche-moi tes noms.
Et donc moi, donc mon top 3 de ce qui m'a marqué dernièrement, Disco Elysium.
Allô.
J'avais dit Disco Elysium.
Il a dit 3 fois. C'est bon, il a ses 3.
Non, mais
Cyberpunk aussi, je crois.
Bomb Rush Cyberpunk, ouais, qui est excellent. Et Hades.
Qui était un Bomb Rush Cyberpunk, qui était un genre de
Jet Set Radio.
Jet Set Radio du futur, ouais, voilà.
Mais top 3, j'avais dit Eastward, Deathloop et Disco Elysium, ouais, qui sont...
Et Eastward, t'as raison, hein, c'est vrai, pareil, je l'ai pas noté, Eastward, je sais pas, il y a tellement eu de jeux, de toute façon, c'est compliqué, mais c'est pareil, c'est
difficile
c'est un
de
jeu
tous
qui...
les faire, quoi.
Mais je trouve que Chaining Cause, si t'as aimé Eastward et que t'as pas fait Chaining Cause, je ne cesse de le dire, hein, mais faites-le, ce Chaining Cause, c'est pour moi, à tous les niveaux, il remplit le cahier des charges des jeux incroyables, quoi.
Ouais, c'est étonnant qu'il sorte pas en boîte, Chaining Cause. Il y a plein de personnes qui en parlent, il est super bien et tout, et il y a des jeux qui sont beaucoup plus anecdotiques qui sortent en physique, et je pense qu'ils se rendraient vachement bien.
Et tu vois, là où je suis étonné, c'est Sea of Stars qui a rencontré un certain succès, aussi bien critique que de nombre de joueurs, et que je trouve moins bon à tous les niveaux, et même la musique, je la trouve assez banale.
L'OST se démarque quand même de Sea of Stars.
Bah, je trouve que les mélodies, elles sont
L'OST
pas
super.
L'OST, elle sonne bien, mais les mélodies, elles sont pas folles, quoi. Je sais pas, j'accroche vraiment pas ce jeu. La musique qui participe aussi, je trouve que c'est pas mal, mais c'est pas fou, quoi.
Ah, moi, je l'attends en boîte quand même. Hein.
Ouais, moi aussi, j'attends en boîte, ça sera début de l'année prochaine, début 2024. Messieurs, je vous propose de clôturer le sujet. Voilà, on avait un top 342 des musiques qui nous ont plu ces 3 dernières années. On va tout de suite passer à l'actu en vrac. C'est parti.
Attends, parce que Rolling, tu voulais dire des trucs.
Rolling.
Ouais.
Mais Rolling, il a plus de micro, donc micro. Rolling, il est en train de vomir son andouillette là, dans son Kyrian.
Rolling a pris ton setup en fait, Gab. Rolling a pris ton setup ce soir.
Une andouillette.
Ok, merci Rolling. Allez, actu en vrac, c'est parti.
Pour une poignée de gamers, le podcast.
L'actu en vrac, Rolling, tu commences ou pas? Oui, il est parti vomir. Allez, je fais ma news. On y va parce qu'on n'entend rien, Rolling. On n'entend pas mon loulou. Je vais vous parler, moi, alors, si vous avez décidé d'acheter une Xbox Series X, soyez un petit peu patient, parce que des revendeurs ont lancé le truc. Il y aura bientôt, au mois de novembre, le Black Friday, et du 20 au 27 novembre 2023, chez plusieurs revendeurs officiels, la Xbox Series X va perdre non pas 50 euros ou 70 euros comme l'avait fait la Xbox Series S l'année dernière, mais 100 euros. Donc on la retrouvera à un prix de 449 euros. Voilà, donc si ça vous tente, soyez un petit peu patient, c'est très bientôt, enfin, dans un bon mois, quoi. Voilà, vous pourrez l'avoir pour 100 balles de moins. Si vous êtes patient, vous pouvez faire des petites économies. Voilà, ça sera au Black Friday. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la PS5, rien n'a été encore dévoilé. En tout cas, la série X casse les prix. Voilà pour ma news.
Oh, c'est cool.
Est-ce que vous m'entendez là, de retour?
Oh non, c'est une horreur.
Non. Bon.
Bonne nuit, Rolling. Merci.
Bonne nuit, Rolling. Désolé, hein, mais là,
ça, on va te couper. Là. C'est possible. Hein. Et Tomouf, t'as vu? J'ai fait une news. Je t'ai piqué ton truc là. Ça, tu l'avais pas, celle-là.
Bah, je peux pas être partout, hein, du coup, ça.
Ah, mais bon, les bons tuyaux, ils perdent. Tu vas bientôt perdre ton titre.
Ah, mais là, je me suis pris à l'avance. Un mois à l'avance. Hein,
non,
tu vois, ça
non,
ça
non.
Mais presque, il t'aurait pris de vitesse. Hein, donc, t'as eu raison, t'as eu raison.
Ah, mais il y avait Sonic Superstars en même temps cette semaine, donc c'est ça aussi.
Ah, tu as joué un peu ou pas?
Je l'ai vu tourner sur Switch, qui ça ramait un peu du côté de chez Puissance Nintendo.
Ouais.
Il l'avait stream sur Switch, mais sinon, non, j'ai pas mis les mains dessus. Mais il est vendu 40 euros en ce
Genre...
moment, donc prenez plutôt la version next-gen One ou PS5 si vous pouvez, mais normalement c'est du bon.
Ok. Voilà, je vais peut-être me pencher plutôt sur le Mario Wonder. Ça sera mon prochain jeu de plateforme. Pourquoi pas Black Friday? À mon avis,
Ah,
il y aura des prix
Mario
intéressants.
Wonder, j'y ai joué par contre.
Ah.
Je suis dessus actuellement.
Alors, comment trouve-t-on ça?
Bah, j'étais mitigé au début parce que il y a des niveaux qui sont pas bonus, mais en fait c'est des moitiés de niveau où
Ouais.
les niveaux sont animés en fait. Et après tout le reste, bah, il y a des pouvoirs qui diffèrent. Donc les pouvoirs qu'on a vus sur les différents Nintendo Direct. Et puis ouais, enfin je vous le recommande, mais pour l'instant, je suis mitigé parce que bah, j'ai pas trop avancé dans le jeu, je suis au monde 2. Je crois qu'il y a 6 mondes, donc j'attends un peu plus pour me faire un avis un peu plus
Objectif, on va dire.
objectif. Ouais, voilà.
Ok. Gab, t'as des news, toi?
Oui, moi j'ai des news. Il y a eu la CitizenCon cette semaine bah, qui débute. Hein, donc pas mal de nouvelles côté CitizenCon. Donc je rappelle, la CitizenCon, c'est tout ce qui tourne autour de Star Citizen. Et il faut savoir que dans la campagne de financement de ce jeu qui coûte une fortune, puisqu'je crois qu'actuellement on est à plus de 600 millions d'euros de financement, il y avait un jeu solo qui devait sortir, qui s'appelait Squadron 42. Et ils ont enfin teasé Squadron 42 qui serait terminé, qui serait en phase de polish pour une future sortie. Et on a eu un très beau trailer de Squadron 42 qui est très très alléchant. Donc je vous rappelle ce que c'est Squadron 42. Ce serait une version de Wing Commander, mais au goût du jour, avec beaucoup 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 plus d'options, un truc beaucoup plus réaliste. Et surtout une pléthore d'acteurs connus, avec Mark Hamill, avec Gene Anderson, Gary Oldman, et j'en passe. Donc bah voilà, ça s'annonce enfin un jeu qui va sortir côté Star Citizen, et je vais garder ça d'un très d'un je vais garder ça d'un œil très très ben, pardon, je vais rester très vigilant. Ah non, mais je suis tellement excité, je vais rester hyper vigilant à cette sortie, parce que c'est un jeu que j'attends énormément, vu comment ils ont réussi à nous faire baver avec cette bande-annonce, quoi. Allez la voir, hein, Squadron 42, la bande-annonce qui est sortie, c'est juste de la folie, c'est un rêve d'enfant éveillé.
Et t'es sur quoi, Duke, en ce moment, du coup?
Je suis sur pas grand chose, mais demain matin, je m'en vais acheter Mario Wonder. Voilà, donc je vais très enchaîner là-dessus, quoi. Et si, j'ai lancé aussi Forza Motorsport sur Game Pass, qui est pas mal, pas mal. Mais tu vois, c'est bizarre, bizarrement, je m'amuse plus sur Gran Turismo. Mais bon, après, voilà, je suis qu'au début, hein, donc je veux pas non plus. Mais il est très très beau, voilà, très très beau.
Ouais,
Alors.
comparé au 7, enfin au Forza Motorsport à l'ancien, il n'était pas plus beau l'ancien?
Non, celui-là est un poil plus
Non.
joli. Il est un poil plus joli. Alors, déjà, le Motorsport est déjà très joli, hein, le 7. Mais là,
Oui,
ça a encore augmenté. J'ai l'impression qu'il y a une sensation de vitesse un peu plus. Ouais, qui est plus présente. Voilà, je trouve qu'il y a plus de sensations dans les effets et tout ça. Et en plus, je joue au
d'accord.
casque, donc c'est assez intéressant. Bon, après, bon, ça reste un jeu de caisse. Hein, voilà, c'est juste. On tourne en rond toujours pareil, mais c'est vrai que c'est très beau,
Après,
quoi.
brom brom brom, la voiture, elle s'abîme jamais quand tu tapes. On connaît le truc, quoi.
Ouais, ben. Ici, il y a des petits dégâts, un petit peu, mais pas autant qu'on souhaiterait. Ouais. C'est pas un simulateur non plus, quoi. Hein, voilà,
Voilà.
c'est comme Gran
C'est pas
Turismo, quoi. C'est.
Destruction Derby, hein.
Voilà. Putain, ouais, quand tu roules sur trois roues, c'était sympa, ça. Bon souvenir.
T'as une autre news?
Moi, j'ai. T'as des news, Tomouf, ou pas, où tu veux en dire ou.
Bah, en fait, j'en ai mis plein sur le Discord, mais non, j'en ai aucune qui me vient en tête là.
D'accord. Bon, alors, je vais enchaîner très rapidement.
Ouais, vas-y.
Tiens, on a vu, vous en avez parlé il y a quelque temps. Vous savez que Charles Martinet, qui était l'incarnation de la voix de Mario dans les jeux vidéo, a été remplacé. Il a pris sa retraite il y a 67 ans. Voilà, Nintendo l'a dit, plus ou moins dit, de maintenant de se mettre de côté, de laisser la suite à des petits jeunes, et ce petit jeune, ben, avec justement le jeu Mario Wonder, Super Mario Bros. Wonder, on a enfin un nom, puisqu'il est crédité, sa voix dans le jeu, et bien c'est un très jeune acteur, totalement inconnu, qui s'appelle Kevin Zachary Afghani, voilà, qui est américain, et qui va endosser donc le rôle de la voix de Mario dans les jeux vidéo. Voilà, donc on lui souhaite belle carrière, voilà, si ça peut aussi longue que celle de Pierre Martinet, ça qui a duré un petit moment. Voilà, donc il a travaillé un petit peu dans les jeux vidéo. Il avait fait notamment une voix en 2020 dans Genshin Impact, il doublait un PNJ, donc mais vraiment des choses très anecdotiques. Donc voilà, il s'est présenté et puis au casting, il a été pris par Nintendo. Donc à sa grande surprise, voilà, et ça a fait un homme heureux pour ce Kevin Zachary. On lui souhaite plein de bonnes choses et c'est la nouvelle voix de Mario pour l'instant dans les jeux vidéo, hein, on est d'accord, pas dans les films.
Et pour rebondir sur ta news sur Mario, du coup, j'ai juste une astuce à vous faire partager parce que c'était assez désagréable dans Mario Wonder, c'est que les fleurs du jeu. Il y a des fleurs spécifiques qui parlent en fait dès le début du jeu et vous pouvez les faire taire tout simplement dans les paramètres du jeu et vous pouvez les faire taire d'office. Donc c'est pas un spoil, hein, c'est dès que vous lancez le jeu, il y a plein de fleurs qui vous parlent de partout et au bout du deuxième niveau, j'en ai vite marre, quoi. Donc petite astuce, vous pouvez donc couper les voix des fleurs. Et vous avez dans les options. Et vous avez des textes, des bulles de texte qui apparaissent sans les voix, du coup.
D'accord. Ok.
Voilà.
Oui, c'est vrai que des fois c'est énervant quand t'as plein de trucs qui parlent comme ça et que t'en fous un peu, quoi. Ça peut être un peu agaçant, effectivement. Quand on peut si l'option de les enlever, on peut le faire, c'est bienvenu.
Et il y en a.
Merci
partout.
Pour le tuyau.
Mais de rien.
Tout simplement, tiens, j'ai quelques chiffres parce qu'on parle de jeux qui se vendent bien. Écoutez, j'ai quand même un world record. C'est quel jeu a passé les 300 millions de copies vendues à votre avis?
Minecraft?
Spider-Man 2?
Non, quand même pas. Quand même pas 300 millions quand même pour Spider-Man 2. Mais non, c'est effectivement, il a raison, Gab, c'est Minecraft. Voilà. Le jeu de Microsoft voilà, qui atteint les 300 millions d'exemplaires. Qui c'était le projet de Mojang qui était sorti en 2009, rappelez-vous. Voilà, donc il est toujours là. Et à mon avis, pour un petit moment, hein, chez les jeunes, c'est terrible. Hein, moi, dans la cour, on aurait écrit, il parle encore vachement de Minecraft et tout ça, c'est impressionnant.
C'est bien mérité, je trouve, mais
ouais.
Intelligent. Ouais, je trouve que le jeu, il est vraiment. Enfin, il y a plein de trucs, c'est hyper intelligent.
J'y comprends rien, mais bon, bref. Mon fils m'explique que je comprends toujours rien. Je fais pas l'effort non plus.
Minecraft est excellent à ses yeux.
Ah bah oui, moi je peux le dire les yeux fermés. C'est-à-dire que là, Minecraft, pour moi, c'est vraiment un jeu qui va marquer le monde du jeu vidéo à tout jamais. C'est...
Non, mais en fait, c'est juste que Dukes ne t'entend pas suffisamment, Gab. C'est pour ça.
Si.
Il m'ignore, j'ai l'habitude. T'inquiète pas, c'est un truc entre nous.
Tiens, en bon chiffre, Mirage, qu'on a.
T'as le son en pixel, c'est pour ça.
Ah, pardon, ça déconne ?
Non. C'est parce que Minecraft, pixel, tout ça.
Ah, ouais, pardon, ouais. Oh, là, je ne sais plus, excusez-moi.
C'est une bad méta.
Pardon. Comme je connais. 1,5 million d'unités vendues en une semaine, c'est pour quel jeu ?
Assassin's Creed Mirage, je crois que j'avais vu
ça. Qu'est-ce qu'il est fort. Exactement, Assassin's Creed Mirage qui est sorti il y a une semaine, tout simplement. Je vais vous dire, je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lancé, donc c'est un truc aussi que je dois faire en parallèle avec Mario. Voilà pour des chiffres. J'en avais un autre. Oui, Lie of P, déjà 1 million de copies vendues aussi pour le jeu de NeoVids. Voilà.
Ouais, pour un premier jeu.
On en a parlé tout à l'heure.
Et moi, je vais vous parler rapidement des Utopiales qui vont avoir lieu à Nantes la semaine prochaine, qui vont avoir lieu du coup du 1er novembre au 5 novembre, et qui est un festival de la science-fiction où il y aura des films projetés, des conférences sur la science, les technologies, la médecine, la science-fiction, mais également le jeu vidéo. Et il y aura également un stand dédié au jeu vidéo où sera présent le développeur de Grandizer. Kaiser, ou plus connu en France sous le nom de Goldorak, puisque, voilà, comme on a déjà parlé, Microïd a mis en route un jeu développé sur Nantes, qui est sous la licence Goldorak, et le jeu sera jouable et présenté du coup lors des Utopiales. Donc voilà, si vous êtes du coin de Nantes, dans le coin de Nantes ce week-end-là, ou ça commence le mercredi, mais voilà, si vous y êtes, vous pouvez passer, c'est un super festival avec plein de choses à apprendre, et c'est toujours super, moi je trouve. Voilà.
Ouais, tiens, petite news d'un jeu que j'aime bien et qu'on parle pas assez souvent. Alors j'avais beaucoup aimé le 1, d'ailleurs je l'ai même en boîte sur Switch. Et là, il y a le 2 qui est sorti il y a quelques temps, quelques mois. C'est Windjammers 2. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il y a une grosse mise à jour qui a été faite là au niveau du crossplay. Voilà, il y a du crossplay entre les différentes machines. Il y a 2 joueurs supplémentaires. Voilà, il y a aussi des nouveaux modes d'entraînement, etc. Donc si vous voulez découvrir le jeu, Windjammers 2, il est très très bon. Il est aussi dans le Game Pass d'ailleurs, je vous le dis. Voilà, ça me fait penser que c'est un jeu qui est méconnu, qui mériterait d'être connu, voilà, donc allez-y, foncez. Alors juste pour les 2 persos supplémentaires, hein, si vous y jouez, c'est, il y a un androïde qui s'appelle Jama GX03 et une polonaise qui s'appelle Anna Zlalinski, donc très bon jeu, allez-y. Et ça fait penser d'ailleurs à Jimbo Seb, tiens, alors ça me permet de leur faire un petit bisou, de Mes Geeks et Moi, un podcast bordelais qu'on aime beaucoup, qui il twitch souvent sur ce jeu, et aussi leur pote Terry de Level Max, voici, ouais, un très bon podcast aussi qu'on vous conseille. Voilà, Windjammers 2, si vous aimez jouer au frisbee, allez-y.
Tiens, tant que t'es dans les petits conseils vidéo et tout, et ben, de podcast, moi j'ai juste
podcast. Pensé...
Ouais, de podcast. J'ai juste moi conseillé une petite chaîne vidéo que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il ne fait pas beaucoup de vidéos, mais quand il fait une vidéo, le gars, c'est juste une merveille. C'est The Great Review. Alors, The Great Review pour...
Ouais, c'est sur quoi, YouTube ?
Sur YouTube, c'est une chaîne. Le gars, il prend généralement le temps de monter une vidéo autour d'un jeu, et en fait il fait un narratif autour du jeu, autour un peu, c'est un peu une fin du game où le gars est tout seul et il te raconte le jeu. Alors c'est bien quand t'as D'accord. fini le jeu pour le redécouvrir de cette manière là et il fait pas ça sur des jeux de merde, tu vois, il a fait ça sur Outer Wilds, il l'a fait sur Tunic entre autres. Je trouve que ses vidéos sont juste magnifiques. Si vous avez, voilà, s'il a parlé d'un de vos jeux, allez voir, c'est incroyable. Moi je trouve qu'il a fait vraiment un boulot incroyable.
Yep. Bien, on regarde. Redis le nom. Great.
The Great Review.
Great ou Great?
Great.
G-R-I-T?
G-R-E-A-T.
Ah, Great. Ok.
Oh putain. Oh, ouais. Tu me fais mal.
Allez, je t'embête. Est-ce qu'il y a d'autres news? Tiens, je vais le faire 2 en une. Des séries qui sont liées avec le jeu vidéo. La série Fallout. Vous savez qu'on en a déjà parlé, il y a une série qui était en production autour de Fallout, de chez Bethesda. C'est terminé, c'est fini d'être tourné, c'est monté quasiment. Et ça sortira, on a enfin une date officielle, alors ça sortira sur Prime Video et ça sortira le 12 avril 2024. Voilà, alors juste pour un petit peu le synopsis, ça se déroulera. Attendez, je l'avais noté quelque part. L'intrigue sera entièrement originale et devrait être tournée autour de l'abri 33. Voilà. Donc, si ça vous dit, c'est le 12 avril prochain, messieurs.
Très bien.
Et j'avais une autre news sur une autre série. Alors, c'est une série interactive. Donc, vous connaissez le principe des séries interactives. Vous pouvez choisir la suite des événements en cliquant sur votre télécommande. Eh bien, c'est la série interactive Silent Hill Ascension qui sera diffusée sur PlayStation via une application et sur certaines télévisions Bravia qui sont de chez Sony. Voilà, sur PS4 et PS5. Et ça sortira, pareil, là, je ne suis pas préparé, j'ai trop de news qui arrivent d'un coup, qui sortira le 1er novembre en France à 3h du matin, si vous faire peur, ça tombe bien, pour Halloween. Vous m'en direz des nouvelles si ça vous tente, messieurs.
Très bien, très bien.
Attends, je cherchais le nom de l'application qu'il faut installer, mais je ne la trouve plus.
Et moi, je vais mettre en lien sur le Discord une des vidéos du fameux gars, comme ça. Voilà. En attendant, on comble un peu le...
The Great ou The Great
The Great Review.
Oh, mais ça m'énerve de ne pas trouver le nom de cette application. Je voulais vous la donner pour soit... Bon, mais ça reviendra peut-être plus tard. Je retrouverai. Est-ce que vous avez d'autres news Gab?
Non, on est bien là, je pense.
On est bien là. Allez, viens,
on
est bien.
On est bien informé. Hein. Je pense que
après, il y a juste eu l'augmentation quand même des tarifs Netflix de ces deux dernières semaines. Le forfait essentiel passe à 12 euros, je crois. Enfin, en gros, c'est le même prix que sur Disney+. Il y a juste le forfait avec pub qui, lui, reste à 6 euros. Et après, je crois que ça va jusqu'à 24 euros, je crois, un truc comme ça. Pour les 4 écrans, je refais référer à mes sources, mais je crois que je l'avais mis sur en actu pareil, et c'est tombé de cette semaine. Donc les augmentations sont valables en France du coup et pour tout le reste. Ouais. Donc ça pique un peu, ouais, effectivement.
J'ai retrouvé l'application, c'est Sony Pictures Core. Voilà, si vous voulez.
Voilà.
Vous matez la série interactive Silent Hill sur votre console PlayStation.
Et bah voilà.
Eh bien, on y va. Sortez des chroniqueurs.
Sortez des chroniqueurs, c'est parti.
Zou, sortez des chroniqueurs.
Pour une poignée de gamers, le podcast.
Sortie du chroniqueur, moi je voulais vous parler d'un jeu, je commence, excuse-moi Gab, parce que comme t'as rien marqué, je ne sais pas trop, et pas pour que tu me le piques au cas où, tu l'as sans doute fait, ça s'appelle The Talos Principle, et c'est le 2 qui sort ce 2 novembre, donc si, je crois qu'on avait fait un test, il me semble, non, que cette dernière avait fait un test, il me semble, sur le Talos Principle, sur la chaîne PPG. Donc, qu'est-ce que c'est que Talos Principle ? C'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu puzzle game, un jeu de réflexion, mais à la fois un petit peu, on va dire, psychologique. Voilà, il y a des questions existentielles. Alors, pour le synopsis, c'est dans un futur lointain dans lequel l'humanité est éteinte depuis longtemps, notre culture subsiste par le biais de robots humanoïdes. Vous devrez donc explorer une gigantesque structure mystérieuse qui vous confrontera à de nouvelles questions. Voilà, donc c'est un peu méta, tout ça, c'est très sympa. J'ai l'impression qu'il y a un énorme travail qui a été fait sur la direction artistique, c'est vraiment très très joli, là. Le premier était très sympa, et apparemment il y a déjà eu des démos qui ont été proposées, et les retours ont été vraiment très bons, voilà, dans la pleine veine du premier, mais avec tous les potards poussés un petit peu plus. Voilà, ça sortira sur Xbox Series S, PS5 et PC, donc c'est quand même un jeu de la nouvelle génération. Talos Principle.
Ok. J'ai pas fait l'air toujours. Je sais que ça fait partie des choses absolument à faire, mais voilà. À un moment donné, il faut faire des choix. c'est ça. De mon côté, je vais juste parler de Endless Dungeon, qu'on a vaguement évoqué tout à l'heure pour la BO, qui est la suite de Dungeon of Endless d'Amplitude Studio. J'ai pas encore mis les mains dessus, mais j'ai eu des échos de personnes qui ont pu déjà y jouer. Je sais que le jeu marche bien, que c'est un bon truc, voilà, il n'y avait pas de soucis. Donc c'est une sorte de roguelite qui se passe dans un monde futuriste où une civilisation se serait crashée sur une planète inconnue, et puis bah, voilà, on essaie de sauver notre peau avec une équipe de soldats spécialisés, et avec cette équipe là on essaie de remonter les niveaux, gagner des nouvelles compétences et compagnie. On meurt et on recommence avec tout un système de tower défense. Voilà, c'est la boucle de gameplay. Je vous invite à aller voir les vidéos, c'est un peu particulier, mais les jeux d'Amplitude, c'est toujours de super jeux. Et je voulais juste revenir aussi, alors je sais pas si j'ai parlé de Wargroup 2 la semaine, il y a deux semaines, qui était la suite de Wargroup
1. Non, je crois pas, je m'en souviens
plus. Qui est le jeu qui se veut être une copie de Advance War, mais en ayant gardé le charme d'Advance War, toujours égal à lui-même. Pas de grande nouveauté, je trouve, par rapport au premier. Je l'ai récupéré sur Switch. Bon, si vous aimez les jeux comme Advance Wars, allez-y, c'est du tout bon. Et enfin, pour finir, parce qu'il y a eu beaucoup de sorties ces derniers temps, il y a eu aussi Dragon Quest Dino Dai Boken qui est sorti, qui est... je sais pas si tu as connu Fly en manga.
Ah, pas du tout. Soir. Alors, je suis pas très manga, donc là, je suis peut-être pas le bon public. Peut-être que Mouf, je sais pas, mais...
Non, non plus.
Fly, c'est les aventures... c'est un des premiers shonen sortis sorti en France en version manga, qui parle des aventures de Fly, du coup, qui se passe dans l'univers de Dragon Quest. Et c'est un super manga. Bah, j'en ai des bons souvenirs, mais j'ai lu ça enfant. Donc, ça se trouve, c'est un peu. Mon prisme est un peu déformé. Et c'est le premier jeu, à ma connaissance, qui existe autour de la licence et qui est un JRP, action RPG. Je sais que les gens n'ont pas été hyper emballés par le jeu, mais bon, j'en parle quand même. Voilà.
Bien. Ok. Et on avait. The Move, t'as quelque chose, toi ?
Bah, moi de mon côté, donc je suis, comme je vous l'ai dit, je suis sur Mario Wonder. Et puis sinon, je suis aussi sur Before Siberia, le Siberia 4.
Le
quatrième, ouais. Qui est,
mais sans Sokal, du coup, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Qui est une préquelle. Et la version boîte, ce qui est bien, c'est qu'elle inclut un artbook avec des storyboards. En fait, de Benoît Sokal. Et l'histoire est cool. Bon, c'est un peu. Faut être patient, en fait, parce que. Voilà. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que les sous-titres sont assez gros, parce que habituellement, dans les jeux actuels, les sous-titres sont de plus en plus petits. Et sinon, l'histoire est vraiment cool à suivre. Et sinon, bah, Mario Wonder à faire.
Yep.
Bah, super, ça fait.
Rowling, avant qu'il nous quitte, il m'avait marqué Tous des pigeons en référence au jeu Headbangers Rhythm Royal. Alors, je sais pas si c'était du second degré ou du premier degré. Je regarde ce que c'était comme jeu. C'est un jeu de rythme, un genre de Battle Royale qui est fait de chez Team 17, l'équipe dit. Team 17 qui sont connus pour faire des jeux un petit peu originaux. Ben là, c'est pour le coup, c'est réussi.
Et pour puisque vous allez Et pour licencier du personnel aussi récemment.
Oui, c'est pas mal. Vous allez affronter 29 autres pigeons dans des mini-jeux de rythme de plus en plus intense. Il y en a 23 au total pour le jour du lancement. 23 mini-jeux. Et il sera possible de récolter des délicieuses miettes de pain à chaque manche. Cela vous donnera accès à une multitude de tenues, de contenus personnalisables, etc., etc. C'est prévu pour le 31 octobre. Ça sera jouable sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One Series et Nintendo Switch. Ça s'appelle Headbangers Rhythm Royal. Voilà, je n'assume pas du tout. C'est Rowling. Il se justifiera ça dans 15 jours. On lui posera quand même des questions.
Si ça va bien, merde.
Et c'est dispo dans le Game Pass.
Et c'est dispo dans le Game Pass. Et voilà. Vous pourrez tester ça entre guillemets presque gratuitement. Messieurs, je vous remercie pour votre présence. Bisous, mon Rowling. Bonne chance avec ton andouillette. Merci Tomouf, merci mon Gab.
Toujours avec plaisir.
On se retrouve dans 15 jours.
Un plaisir et à la prochaine. Ouais.
Rolling, si j'ai un conseil à te donner. L'andouillette, c'est comme la sodomie, il faut que ça sente la merde, mais pas trop. Alors fais gaffe, c'est ce que t'as bouffé.
T'as jamais essayé.
J'adore l'andouillette.
Et qu'est-ce que c'est bien.
Qu'est-ce que c'est bon, l'andouillette.
Je ne parlais pas de toi, de la sodomie, pardon.
Ouais, je sais bien, j'ai compris. Ouais. Allez, tout de suite, l'actu en vrac, c'est parti.
Mais non, attends, mais Rolling, il aime un truc.
Actu en vrac, c'est parti. Mais je sais pas, il parle pas, alors il ferme sa gueule, il est en train de
vomir. Il est sur répondeur, là, donc...